sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Radio Libertaire, bonjour à toutes et à tous, le Ferré Club. Aujourd'hui, entretien avec Cédric Gourmelon.
La Radio Libertaire, 89.
C'est quoi, 5. Oui.
Et comptent-ils à rentrer chaque année, les artistes? J'avais sur le futur des mains de cordonnier, chaussant les astres, de mes peaux en se mêler, la conscience dans le speeder, je mets les voiles. Je déchargeais des tombereaux de souvenirs, nous étions une histoire et n'avions rien à dire. Moi, je prendrais la quatrième dimension pour trisser dans l'azur mes jambes migratrices. Le mur instantané que je dresse à la Chine, Mao, c'était le nom de ce viking flamand. Le tissu esquimau vieillit beaucoup plus vite des plaies sur des grabats du Chili à Santiago, s'exténuait en équation de cicatrices. Le malade concret et l'interne distrait sont allés boire un pot au café de la morgue. Des vieillards, le chéquier à la main à la banque, faisaient des virements de testicules abstraits. L'embryon vaginé, derviche dans le manque. Un pavot est venu l'asperger cette nuit. Mon berceau féodal et mes couilles gothiques, des faunets, des trognons, des tissus ajoutés fondaient sous les sunlights de l'opéra comique. La Standard Oil prend du bidon et du gin fizz, la fièvre est descendue ce soir à Mexico. Oh, ce parfum diapré dans la nuit des cigales. Dans une discothèque, on a mis des barreaux. Les fenêtres s'en vont de la gorge et du squale. Ça sent la perfection dans ces rues amputées. Saint-Denis est un saint derrière doublé. La fièvre est descendue ce soir dans un bordel et fallait voir comment ça soufflait dans la cale. Il y a partout des cons bordés d'oiseaux comme des lettres cheminant. Mon parchemin. Nightingale, ô chanson crevée à minuit trente, j'ai le concile dans la main qui se lamente devant le mur à faire un peu des oraisons. La folie m'a tenu la main à sa culotte. On eût dit de la mer s'en allant pour de bon. Viens, petit, dévais-toi, prends du large et jouis. Je sais des paravents comme un zoom d'espérance. Que font-ils? Qui sont-ils? Ces gens qu'on tient en laisse, dans les ports, au shopping, au bordel, à la messe. Et ces mômes qu'on pourrait se carrer entre deux trains, histoire de leur montrer qu'on a du face à main. Ils ont voté, ils voteront comme on prend un barbiturique et ils ont mis la République au fond d'un vase à reposer. Les experts ont analysé ce qu'il y avait au fond du vase. Il n'y avait rien qu'un peu de vase. Et qu'ont-ils à rentrer chaque année, les artistes? J'avais sur le futur des mains de cordonnier, chaussant les astres de mes peaux en se mêler, la conscience dans le speeder, je mets les voiles. Shakespeare aussi était un terroriste. Waltz, 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 disait-il. Videla, en français budel, trip, en italien budella, trip, en argentin, allez-y voir. Waltz, waltz, waltz. De quoi dégueuler. De quoi dégueuler. Vraiment.
Et qu'ont-ils à rentrer chaque année les artistes? C'est avec cette question que Léo débute la chanson World World World. Et c'est avec cette question que nous finirons l'entretien que nous débutons maintenant. Cédric Gourmelon, bonjour.
Bonjour.
C'est un honneur et un plaisir de vous recevoir. Vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène, vous dirigez également le Centre Dramatique National de Béthune, qui se trouve dans le Pas-de-Calais. Vous êtes également un partageux, puisque votre passion du théâtre, vous la déclinez dans des formations théâtrales que vous dispensez. C'est une chose importante. Et vous interprétez et mettez en scène un spectacle intitulé « Words, Words, Words ». En référence à la chanson du même titre de Léo, bien sûr, parue sur l'album La violence et l'ennui en 1980, qui est peut-être, pourrais-je dire, une sorte d'écho théâtral donné à l'œuvre de Léo Ferré. C'est pour parler de ce spectacle que je vous reçois, mais aussi pour parler de votre rapport d'individu avec l'œuvre de Léo, et pour tenter de comprendre comment on en vient finalement à proposer un spectacle intitulé Words, 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 j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur la place que l'œuvre féréenne occupe en vous. Alors tout d'abord, la première question par rapport à cette œuvre, c'est de savoir comment est-ce que cette œuvre est entrée dans votre vie. Comment est-ce que vous avez découvert Léo ?
Alors ça a commencé à l'adolescence, je dirais, comme plein de gens. Je pense que c'était avec le temps, une fois à la radio. Et il se passe quelque chose à ce moment-là. Je ne comprends pas vraiment les paroles, mais la mélancolie de la chanson... me prend, quoi. Et donc, voilà, il y a une première alerte à ce moment-là. Et puis, à la fois dans les années 80, Léo Ferré, c'était pas non plus ce que les jeunes de mon âge écoutaient. Hein. J'étais plus sur d'autres styles musicaux. Donc, j'ai laissé tomber. Et puis, c'est vraiment, finalement, assez tard, hein, après sa mort, à l'édition de l'album Métamec, je crois que c'est au début des années 2000.
C'est en 2000.
J'écoute cet album et là c'est un choc. Là c'est vraiment quelque chose de très fort pour moi, à la fois musicalement, je dirais, même si c'est enregistré sur son 4 pistes, c'est un peu c'est pas un très bon son, etc. On entend les chiens, voilà, c'est pas des meilleures conditions d'enregistrement, mais c'est sa poésie, je crois, qui m'a frappé, mystérieuse, complexe, un peu opaque parfois. Je sentais qu'il y avait quelque chose de très puissant quand même dans sa poésie à ce moment-là. Et donc je suis entré finalement par ses derniers textes. Métamec, c'est l'un des derniers qu'il a écrit, même si c'est des textes matriciels un peu qui regroupent tout plein d'autres textes. Il avançait pas mal comme ça, des longs textes, et puis avec un même texte il faisait plusieurs chansons. Et donc à partir de là je me suis intéressé, et ça correspond finalement à la période où Mathieu Ferré réédite un peu toute cette période-là, les périodes toscanes, en fait. C'est vraiment les années 80, 90 jusqu'à sa mort, et c'est cette période-là, moi, qui m'a le plus passionné, quoi. Donc ça a été une découverte importante, au point d'en faire un premier spectacle en 2004. Une sorte de performance, on ne peut pas dire un spectacle. C'est-à-dire que j'ai pris tous ces textes-là, Métamec, tous les textes qui composent l'album, sur un plateau, et je les ai sur des pupitres, et je les ai balancés comme ça. C'était à Brest, dans le Grand Théâtre, sur la Grande Scène, et c'était une commande qu'on m'avait faite d'une performance de mon choix. Voilà.
D'accord.
Donc performance, je ne suis pas un performateur au sens... il y a presque des gens qui sont spécialisés vraiment dans ce domaine-là. Et du coup, moi, c'était une performance vocale, une sorte de vocifération comme ça. Et à partir de là... Donc c'était pas un spectacle, c'était vraiment un truc destiné à être tenté qu'une fois. Et il y a eu des gens dans la salle, et notamment des jeunes qui ne connaissaient pas Ferré. Alors donc 7-8 ans après sa mort, des jeunes d'une vingtaine d'années ne connaissaient pas Ferré, étaient surpris par les textes. Ils se demandaient ce que c'était, ils se demandaient si c'était pas un rappeur, mais un drôle de rappeur un peu, quoi.
Ah ouais.
Une poésie qui les a touchés, et à la fois c'était mystérieux pour eux, quoi. Et là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Dès le début des années 2000, c'est pas Brel, c'est pas Brassens où il y a quelque chose qui perdure. Ferré, assez vite, la jeunesse, c'est un peu
distancé de lui,
oui. Et je me suis dit, il faut continuer absolument à faire découvrir ses œuvres, quoi. Et sa poésie surtout, voilà.
Mais ce spectacle en 2004, ce n'était pas encore Words, 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 c'était quelque chose de plus informel.
Oui, c'était la première, parce qu'il y a eu plusieurs étapes, en fait. C'était la première fois où en public je testais ça, sa langue, son écriture, voilà.
Votre première mise en mots.
Oui, c'est ça, mise en bouche, quoi, de ces textes.
Fait, ouais. En fait, ouais. En plus,
parce que je suis pas musicien, c'est ça aussi toute la relation que j'ai eue avec Ferré au fil des années, c'est en tant que comédien, metteur en scène, donc c'est assez singulier, quoi. C'est même si je suis évidemment bouleversé par ses textes, par ses musiques, j'admire le musicien, mais moi je le suis pas, et donc c'est vraiment par son écriture que je suis rentré chez Ferré.
C'est plus sa poésie qui vous a marqué.
Oui,
davantage.
Tout à fait, ouais.
D'accord. Dans la découverte de l'œuvre que vous commencez, donc vous me dites que vous allez vers le chapitre toscan, on va dire, de sa composition.
Oui, c'est ça.
Vous vous êtes procuré les albums, vous êtes plongé dedans, vous...
Eh ben j'ai acheté tous les albums et dès qu'ils sortaient, c'est-à-dire qu'il en sortait un ou deux par an, pendant une dizaine d'années, là, je les attendais. C'était vraiment comme on attend les séries ouais, Netflix et tout ça. Là, ben là, c'était vraiment attendre les sorties d'albums de Ferré. C'était vraiment devenu une passion, quoi. Je suis tombé amoureux de sa voix aussi, je pense. Il y a quelque chose d'une chaleur et un lyrisme qui m'a atteint. Voilà. Et donc, c'était presque secret parce que c'est pas un truc que je pouvais vraiment partager, quoi.
Ah oui. Autour de vous, ça n'aurait pas été, il n'y aurait pas eu de réception.
Dans le milieu théâtral, Ferré, si, un peu, quoi. Mais les vieux, quoi, plutôt. Mais les gens de ma génération à ce moment-là, pas trop. C'était le début du rap, justement. Et donc, voilà, c'était plus ça.
Et c'est peut-être ça qu'on identifiait les jeunes dans l'ascension que vous...
Oui, et puis dans une forme de colère, je pense, quand même. Ouais. Parce que même dans les textes poétiques, même dans les textes des années 80, il y a de la colère. Il y a un peu de désespoir, il y a un peu de colère. Et je pense que c'est ça aussi que les jeunes... qui atteint les jeunes, cette couche-là.
De révolte, un peu.
Ouais, de révolte. Ouais,
ouais, bien sûr. Et lorsque vous avez découvert cette œuvre, au fur et à mesure que les albums étaient réédités, est-ce que cela vous a confirmé finalement votre inclinaison pour la partie toscane de la création de Léo, ou est-ce que quand même vous êtes allé voir d'autres pans de sa partie créatrice ?
Alors j'ai plongé donc par la partie toscane, mais après je me suis intéressé effectivement à tout le reste, donc la période Barclay et puis les années 50, etc. Mais il y a quelque chose qui se définitivement, c'est vraiment la fin, moi, qui m'intéresse. Parce qu'il y a quelque chose qui se libère, quoi. Il y a quelque chose... alors, qui tourne en rond aussi, parce qu'il y a ces obsessions qui reviennent en permanence. Mais à partir du moment où il quitte Barclay, quoi, et on sent qu'il s'affranchit, il y a une volonté d'aller au bout de son geste, et puis il y a une vraie liberté, quoi. Et c'est ça qui me séduit beaucoup.
Bien sûr. Alors, j'ai envie de vous poser la question, bien évidemment, parmi tous ces albums, La violence et l'ennui, peut-être, est celui qui a retenu davantage votre attention. Je vous pose la question parce que Words 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 est inclus sur cet album.
C'est difficile de... Il y en a vraiment plusieurs. La violence et l'ennui, oui, je l'aime beaucoup, vraiment. Et ce texte-là, Words Words Words, qui reste mystérieux, hein, qui compile toute une série d'événements des années 70, je dirais, d'événements politiques qui ont marqué Ferré, et à la fois c'est très très mystérieux. Enfin, c'est des textes, on a l'impression, pour les déchiffrer, il faut des clés. Mais on est récompensé, c'est-à-dire que si on fréquente vraiment son œuvre, on obtient les clés un peu pour comprendre ses métaphores, de quoi il parle, etc. Et quand on commence à toucher, quand on commence à atteindre ça, quand ça paraît compréhensible. Sans pouvoir toujours bien l'expliquer, mais parce qu'on a passé beaucoup de temps dans son univers, si on veut, ben on est récompensé, c'est super, en fait. Voilà.
La maturation du message ferréen.
Ouais, c'est ça. Et la capacité à décrypter un peu sa poésie, quoi, si on veut, ouais. Parce qu'elle est complexe. Hein, elle est... si on prend Métamec, c'est super complexe. Et à la fois, quand on a l'habitude de fréquenter son œuvre, on comprend que, l'ordinateur, la perforation, tout ça, le quartz de sa montre, il y a plein de trucs qui reviennent en permanence, quoi.
Bien sûr.
Et puis son rapport au désir, aux femmes, etc. Il y a ces métaphores qui reviennent tout le temps. Et du coup, ça nous paraît limpide. Et dans Métamec, il parle beaucoup de sa mort, il parle beaucoup de la faim, il parle beaucoup de, je pense, de sa maladie. Et ça nous paraît, pour nous, super clair, alors que pour d'autres qui découvrent l'œuvre de Ferré, c'est très mystérieux, quoi.
Bien sûr.
Donc c'est ça aussi avec les grands auteurs ou les grandes œuvres, c'est que une fois qu'on démarre avec elles, on est récompensé régulièrement, c'est-à-dire qu'on comprend des trucs qu'on comprenait pas au début.
Mais pour ça, il faut bien sûr s'investir plonger quand même.
Plonger, ouais, c'est ça.
Voilà,
ouais.
Et c'est grandement ce que vous avez fait, j'imagine. Hein.
Ah oui, ouais.
Bien sûr. Question que je vous pose, parce que je vais pas dire votre âge, hein, bien évidemment, par correction, mais est-ce que vous avez vu Léo en concert? Parce que vous êtes potentiellement, vous auriez pu l'avoir vu.
J'aurais pu l'avoir vu, d'autant plus que je suis breton et que la dernière tournée, 92-93, il était en Bretagne. C'était la série de concerts où il demandait au public de ne pas l'applaudir. Il terminait avec le temps. Après l'avoir massacré pendant des années en concert, il supportait pas le côté tube, je pense, et il supportait plus de la chanter, celle-là. Là, sur la fin, il a accepté de la mettre en dernier son tour de chant et il demandait donc aux spectateurs de faire du silence, de ne pas l'applaudir à la fin de l'ultime chanson. Ça passait à côté de chez moi, j'étais à Vannes et je voyais l'affiche et j'ai failli y aller. Morgane, qui est directrice adjointe du théâtre avec qui on travaille depuis longtemps, qui s'occupe de la production de mes spectacles, elle l'a vu à Quimper, je crois, lors de cette tournée-là. Et c'était un souvenir incroyable. Une émotion immense, en fait. C'était un beau cadeau, finalement, qu'il offrait. C'est-à-dire que de rester avec cette frustration de ne pas pouvoir applaudir, à la fois, c'est un peu cruel, et en même temps, c'est un moment d'une intensité incroyable, partagé avec tous les spectateurs. Et donc, je regrette, évidemment, beaucoup de ne pas avoir été voir ce spectacle. J'y ai pensé, je vois encore l'affiche. J'ai hésité, j'étais jeune, moi, j'avais 17-18 ans. Et oui, c'est un vrai regret.
Et est-ce que, en revanche, vous avez vu des captations de concerts, peut-être?
Ah oui, bien sûr. Depuis, je suis un vrai passionné. Hein, donc j'ai écouté tous les albums et j'ai vu toutes les captations qui existent.
Ouais. Et il y a des choses dans la façon dont Léo se comportait sur scène, même si la mise en scène des récitals de Léo était somme toute très limitée, hein, très minimale. Mais est-ce qu'il y a des choses dans sa façon de se comporter sur scène qui vous ont marqué, peut-être en particulier?
Oui, sa capacité à réinterpréter certaines des chansons et à improviser. Surtout, moi, ce que j'adore, c'est dans certains concerts, les impros qu'il fait. Enfin, il part dans son imaginaire, là. Et j'ai d'ailleurs, dans le spectacle, Words, 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 je reprends. C'est-à-dire que j'ai repris des improvisations de Ferré en scène et j'en ai fait des monologues dont je respecte vraiment la structure. Et que je fais entre les textes dans le spectacle Words, Words, Words.
Quand vous me parlez de ça, je pense peut-être en particulier au monologue de la solitude, Léo 38, au théâtre.
Non, c'est vraiment des impros entre chansons. Je vais vous donner un extrait, par exemple, il faut que je m'en rappelle, mais je ne sais plus quelle chanson il fait, et ça n'avait rien à voir d'ailleurs. Il est avec le public, il les regarde. Et puis il part dans des souvenirs. Mon grand-père était cocher de fiacre à Nice, dans les Alpes-Maritimes. J'ai toujours aimé les chevaux. Quand je vois un cheval, je pense aussi à Nietzsche à Turin, qui avait vu un cocher qui battait son cheval de fiacre. Et Nietzsche, il est allé se pendre au cou du cheval pour l'embrasser. C'est fantastique. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. C'est terrible, ça. Et il est devenu fou. S'il n'y a que les fous qui empêchent qu'on batte les chevaux, alors c'est terrible. Et alors ce cheval, je lui parlais quand je le rencontrais à Monaco, c'était un cheval qui n'était pas bête du tout, il m'avait compris tout de suite. Quand je le regardais, il me dit « Alors Léo, alors ça va ?» Je lui dis « Je peux venir avec toi ?»« T'es pas con, non, t'es pas con, moi je suis bien comme ça, hein. Moi je suis bien Léo. » Et puis fais gaffe, les hommes, c'est pas du tout cuit, je le sais moi. Hein. Voilà, j'ai appris par cœur des trucs que lui...
Merci, parce que oui, on le retrouve tout de suite, quoi, aucun souci.
Pense à quoi? À la langueur du soir, dans les trains du tiers-monde, à la maladie louche, au parfum de secours, à cette femme informe et qui pourtant s'inonde, au chagrin de la mer, planqué au fond des cours. Tu penses à quoi? À l'avion malheureux qui cherche un champ de blé, à ce monde accroupi, les yeux dans les étoiles, à ce maître inventé pour mesurer les plaies, à ta joie démarrée quand je mets à la voile. Tu penses à quoi? À cette rouge gorge accrochée à ton flanc, aux pierres de la mer, lisses comme des cygnes au coquillage. voyage heureux et sa perle dedans qui n'attend que tes yeux pour leur faire des signes. Tu penses à quoi, aux seins exténués de la chienne maman, aux hommes muselés qui tirent sur la laisse, aux biches dans les bois, aux lièvres dans le vent, à l'aigle bienheureux, à l'azur qu'il caresse. Tu penses à quoi? À l'imagination qui part demain matin, à la fille égrenant son rosaire, à pilule, à ses mains, à peu monde, où tremble son destin, à l'horizon barré, où ses rêves s'annulent. Tu penses à quoi? À ta voix sur le fil, quand je cherche ta voix, à toi qui t'enfuyais, quand j'allais te connaître, à tout ce que tu sais de moi, et à ce que tu crois. À ce que je connais de toi sans te connaître. Tu penses à quoi? À ce temps relatif qui blanchit mes cheveux, à ces larmes perdues qui s'inventent des rides, à ces arbres datés où traînent des aveux, à ton ventre rempli et à l'horreur de vie. Tu penses à quoi? À la brume baissant son compteur sur ta vie, à la mort qui sommeille au bord de l'autoroute, à tes chagrins d'enfant dans les yeux des petits, à ton cœur mesuré qui bat coûte que coûte. Tu penses à quoi? À ta tête de mort qui pousse sous ta peau, à tes dents déjà mortes et qui rit dans ta tombe, à cette absurdité de vivre pour la peau, à la peur qui te tient debout lorsque tout tombe.
Club entretien avec Cédric Gourmelon. Walter Swartz, parler de ce spectacle, j'ai lu sur Wikipédia, alors ce spectacle que vous donnez, que vous allez donner à la fin du mois, mais j'ai lu sur Wikipédia qu'il avait été créé il y a quelques années de cela.
Oui, le spectacle a été créé, il y a eu une première version en 2004. Où j'ai rassemblé plusieurs des textes. Alors ça a changé parce qu'il y a eu trois. J'ai déjà fait deux versions différentes. Donc 2004, il y a une première version, seul en scène, toujours le même principe finalement. Je joue un peu de piano, mais en décalé. Par exemple, je joue avec le temps, mais ça c'est pour le public, pour essayer de reconnecter à des choses qui connaissent les choses les plus universelles, on va dire. Et puis, mais quand je le joue, je ne chante pas, par exemple. Je chantonne La mémoire et la mer, on va dire, ou je chante La mémoire et la mer, mais il n'y a pas de musique à ce moment-là. Et quand je dis des textes dont les gens ont ton style, c'est ton cul, les gens ont peut-être la mélodie en tête, donc je le dis plutôt à plat. Enfin, tout est en décalé pour pas qu'il n'y ait pas de comparaison possible avec Ferré.
Bien sûr.
Le spectacle ouvre avec Métamec, c'est un texte fleuve comme ça qui dure 18 minutes.
Que vous donnez en intégralité?
Oui, bien sûr, ouais.
Ah ouais. Vous avez les textes devant vous, vous connaissez.
Alors, Métamec, en l'occurrence, Métamec, je l'avais appris, donc je le faisais, je le balançais comme ça. Et puis là je l'ai, sur cette dernière version, je le lis. Mais volontairement, c'est-à-dire que ça me permet de je le connais plutôt par cœur, mais je le lis, c'est une manière de rentrer dans le spectacle, etc. Et ensuite, je lâche le mode lecture pour poursuivre en mode comédien, quoi. Voilà. C'est pour vraiment partir du texte aussi. C'est vraiment ça que ça raconte un peu dans le spectacle.
Alors, quel est ce spectacle finalement? Parce que je ne l'ai pas vu, hein. Je ne vous cache pas encore, malheureusement. J'espère le voir quand même bientôt. Mais de quoi est constitué ce spectacle? C'est une somme de textes de Léo? Est-ce qu'ils sont uniquement dits ou eh bien est-ce qu'ils sont parfois chantés? Vous avez un petit peu vendu la mèche là, à l'instant.
C'est un peu composite, c'est étrange. Effectivement. C'est un spectacle assez singulier, quoi. C'est ce que me disent souvent les gens quand ils en sortent. Ils sont à la fois bouleversés et à la fois la forme est très singulière, c'est-à-dire ça rentre dans aucune case vraiment, quoi, parce que ça raconte quand même une histoire, c'est-à-dire qu'il y a un ordre un petit peu. Au début, on est vraiment, donc ça démarre par Métamec, qui est un peu le texte testament si on veut, et puis ça alterne. Je raconte ce que je vous disais, c'est-à-dire des impros un peu de ferré que je donne pour essayer d'avoir un rapport comme ça direct au public. Je joue avec le temps au piano, je fais ton style, j'amène un gros drapeau noir, il y a de la musique un peu indus, une musique vraiment trash, quoi. Et puis là, je balance le texte, là j'ai un micro machin, là, les micros, ouais, de Madonna, je sais comment ça s'appelle. Et là, je balance le texte, la violence et l'ennui. Le chien, ouais, je le fais vraiment, là c'est un travail vraiment théâtral. Le texte du chien, je le fais sans musique, sans rien, et vraiment dans un rapport concret et direct au spectateur. Je les engueule. Là, c'est un gros travail que j'ai fait, moi, vraiment pour faire comme si c'était imprévu, un accident dans le spectacle, et je fais le texte, le chien en entier.
Oui, vous n'êtes pas allé chercher dans les textes les moins simples de Léo, hein, qui non. plus est quand même, quoi.
Non, parce que j'ai beaucoup expérimenté aussi ce qui marchait, ce qui marchait pas, dans ce que je pouvais proposer, c'est-à-dire j'ai appris bien plus de textes que ceux que je fais dans le spectacle, et il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, il y en a qui ont un côté maintenant un peu désuet quand même, qui fonctionne moins, il y en a qui pourtant sont anciens, marchent encore, alors je sais pas à quoi ça tient, c'est à la fois moi, la relation que j'ai développée à ces textes, c'est s'ils résonnent ou pas un peu aujourd'hui aussi. Donc il y a eu tout ce choix qui a été fait, quoi, pour garder ce qui fonctionne. Il y en a où je slame plus ou moins, enfin je suis pas slameur, mais où il y a une scansion en tout cas comme ça. La mémoire et la mer, donc je le chante.
Incontournable.
Incontournable, c'est peut-être la préférée. Moi je pense que c'est ma chanson préférée. Je peins à un moment parce que je travaillais sur une chanson qui s'appelait De toutes les couleurs, où il y a des explosions comme ça, une explosion musicale par couleur. Et puis j'ai eu envie de l'accompagner du geste, donc en balançant sur une toile blanche de la peinture jaune, rouge, noir, comme dans la chanson. Je trouvais que ça racontait quelque chose de ferré, quoi, d'explosif, d'un peu. Explosif, voilà. Et puis ça fonctionnait pas très bien, ça faisait un petit peu trop illustratif finalement. Et puis c'est la chanson que j'ai enlevée, j'ai gardé le geste. Et finalement j'ai enlevé, il y avait trop de couleurs et j'ai fait que du bleu. Et donc je balance de la peinture bleue sur une toile. On a fait tout un montage sur la chanson, justement de toutes les couleurs, qu'on a un peu trafiqué, qu'on a un peu. Comment on appelle ça, remixer, quoi, si on veut, enfin voilà, pour en faire un truc sombre et mystérieux. Et je peins de la peinture bleue, donc c'est une petite séquence comme ça, un peu onirique, et finalement ça parle aussi de Léo Ferré, quoi, cette peinture en mode brut, un peu brutal comme ça. Et puis dans cette version-là, la grande nouveauté, c'est qu'il y a un texte contemporain écrit par un jeune artiste, enfin un jeune auteur qui s'appelle Baptiste Amann, qui a rencontré un grand succès, qui a une trilogie qui s'appelle Des Territoires, et qui a rencontré un grand succès au Festival d'Avignon l'année dernière, Il y a un spectacle qui joue à ce moment, en ce moment à Théâtre Ouvert. Et c'est un, c'est un des auteurs qui me touche le plus, moi, dans les nouvelles générations, en tout cas.
Et c'est un texte en rapport avec Léo ?
Et c'est un fan de Le Ferré. Et Baptiste est metteur en scène et auteur. Il est associé à la Comédie de Béthune. Je lui ai proposé d'être artiste associé. Et il est fan de Ferré. Donc, il m'a écrit un texte. Il a fait une réécriture de « Il n'y a plus rien ». « Il n'y a plus rien », c'est un texte pareil que je me suis permis de reprendre par moment. C'est pas facile, c'est pas un texte facile.
Non, mais enfin, mais Tamek non plus, j'ai envie de vous dire, le chien, c'est pas simple non plus.
Mais parce qu'il est très référencé finalement. Pareil, il y a des choses vraiment des années 70. Et c'est un peu compliqué de... parce qu'il y a des choses qui ne parlent plus aux gens maintenant. Ouais. Quoi. La révolte, toujours pareil, on l'entend, mais... la dénonciation de l'hypocrisie, là, il parle beaucoup là, de hiérarchie, de la, sa rosette, là, de la Légion d'honneur, tout ça. Enfin, il est, et il y a des trucs qui sont compliqués à faire entendre aujourd'hui. Et du coup, c'est une réécriture, il a fait une réécriture de « Il n'y a plus rien ». Le même principe d'un pamphlet anarcho-poétique, mais avec des trucs d'aujourd'hui. Quoi. Donc, c'est que des références. Il parle des Canadairs, il parle de ce qui nous entoure. Quoi.
Une sorte de réactualisation, en fait.
Ouais, « Il n'y a plus rien ouais. ».
Ambitieux.
Très ambitieux, très ambitieux, mais c'est un texte très, très, très beau. Et c'est pour ça que je l'ai repris. Je souhaitais qu'il y ait 40 ans après, quand même, maintenant, c'est pas 40 ans, c'est 30 ans après sa mort, c'est ça ? Ouais. Oui. Cette année, c'est 30 ans. Ouais. Qu'il y ait un auteur contemporain le lien quoi entre Ferré et nous quoi il a écrit son texte est magnifique entre désert
excusez-moi
oui pardon
entre il y a 30 ans et maintenant quoi en fait
ouais un lien, peu ouais, oui pour une réécriture de Ferré voilà après c'est un exercice comme ça
oui, bien sûr le texte s'appelle désert vous nous
il
dites.
S'appelle désert ouais.
D'accord. Et pour ceux qui connaissent Léo, en l'entendant, on va retrouver des traits communs qui
complètement. Vont... Ça démarre par un truc super enflammé. Alors, est-ce que je l'ai en tête ? J'ai pas révisé, mais c'est à chaque fois de le faire, ça peut donner une idée. Si la parole n'est pas ce souffle transmis à ceux qui sont à terre pour qu'ils se redressent, c'est que cette parole n'a pas de langue. Méfie-toi des paroles sans langue, qui administrent, jugent et condamnent. Décape les mondes parasites qui se déposent sur le dos des beautés simples, s'encombre de définitions tristes et pleines d'ennuis. Ne montre jamais ta peine aux petits bourreaux qui se dédouanent derrière leur guichet d'employés subalternes, ce serait offrir à ceux qui les humilient, à ceux qui les soumettent, l'humiliation dont ils s'inspirent pour jouir. Fais plutôt coaguler tes larmes, qu'elles cristallisent au coin de ton œil et deviennent des minéraux tranchants, qu'il pleuve de ton chagrin des lames de crocodile, qu'elles pulvérisent les synthèses inhumaines de leurs administrations.
Oui, il y a du Ferré dedans.
Oui, il y a du Ferré dedans.
Ouais, clairement. Ouais, quoi. Voilà. En le lisant, vous avez tout de suite ressenti cette dimension.
Complètement. Il était sous l'influence directe. C'était une commande. Moi, c'était vraiment essayer de faire cette jonction entre Ferré et aujourd'hui. Quoi, voilà.
Mais une commande auprès de quelqu'un qui connaissait quand même déjà bien l'œuvre.
Oui,
bien
et sûr. qui était lui aussi fan. Oui,
ouais, bien sûr. J'ai une question à vous poser. Quand vous dites cette chanson marche ou ne marche pas, comment vous le ressentez ça ? Parce que vous me dites que certaines chansons étaient dans les premières versions, ont disparu, etc. Qu'est-ce qui fait que vous sentez si ça marche ou ça marche pas ?
C'est des endroits... Il y a une démarche artistique vraiment. C'est-à-dire, si je sens que ça n'ouvre pas quelque chose, si c'est pas.
Mais dans la réception, dans le retour que vous avez du public ou.
Oui, c'est ça. Je travaille en équipe. On travaille en équipe. Ce que j'ai oublié de le dire, c'est-à-dire qu'il y a aussi. Il y a du son, c'est-à-dire qu'il y a un concepteur sonore qui travaille avec moi. Et
Michael Plugnan.
Oui, Michael Plugnan, et qui a beaucoup, beaucoup de talent, et qui trouve ou pas, en fonction de ce que je propose aussi, un accompagnement musical. il y a moi le plaisir à le faire au bout de 2-3 fois. S'il y a quelque chose qui, où je sens que voilà, je perds du plaisir, ça c'est abandonné. Il y a quelque chose qui peut coincer aussi dans la compréhension qui aujourd'hui, c'était très compliqué ça, parce qu'il y a eu MeToo, la société n'est plus la même d'il y a 30 ans, et la manière dont les femmes en prennent plein la gueule parfois dans l'œuvre de Ferré, parfois il y a des trucs qui passent plus aussi, qui sont un peu compliqués. Négresse, même le terme négresse, par exemple, il y a dans 2-3 textes, c'est un peu délicat pour moi, voilà, maintenant. Ça évolue. Alors, quoi qu'on en pense, parce que moi, j'ai pas envie de censurer, donc c'est des textes que je vais plutôt laisser de côté, quoi. Vous voyez, c'est donc...
Ah oui, je vois. Voilà. Ouais, je vois sans aucun souci. Et donc, ce spectacle, c'est en fait une succession de tableaux, j'ai cru lire, sur le site du Théâtre de Béthune, où c'est une unité, c'est juste un moment où il y a différents décors, il y a différentes...
Il y a des séquences, alors que chaque texte accompagne une séquence, la lumière est différente à chaque fois, vraiment, c'est vraiment une succession de tableaux, quoi,
pour chaque texte.
Pour chaque texte, il y a une lumière, il y a un univers, ouais.
Donc finalement, il n'y a pas tant de textes que ça, vous êtes surtout concentré sur...
Non, j'exagère, il y a une dizaine de séquences, une dizaine de tableaux, quoi.
D'accord, oui, quand même.
Ouais, quand même. Quand je parlais de différentes versions depuis 2004, c'est que il y a une première version où il y avait un choix de texte, et ça a évolué, c'est ça qui a évolué, j'en ai enlevé, j'en ai rajouté, c'est comme un travail comme ça de recherche qui au long cours, quoi. Ça fait 15 ans que je suis là-dessus.
Ouais, mine de rien. Donc vous le connaissez, enfin vous l'avez bien rodé, puis il y a quelque chose de... Je sais pas comment dire, ça vous habite vraiment. C'est quoi.
Organique, ouais. Oui, j'avoue. Ouais.
Si t'as pas de galette, il faut rester chez moi. On fera nos emplettes, tout décrochez-moi ça. Pour ce qui est de la galvaude, on se coudra sous la peau les images de mode qu'enfilent tous les journaux. Y a pas d'erreur, coco, pour faire aller le bateau. Faut du coco. Régule avec l'État, fout une virgule à cet argent-là, et tu te retrouves, titine, ton bar rempli, centime, badabadabon. Avec ce qu'on a. Y'a pas d'erreur, coco, pour faire aller le bateau. Faut du coco, du bon, du beau. Hier, au fond de la misère, on était millionnaire. Le tout c'était de s'y faire, vu qu'on venait par terre. Repique du tac au tac, t'avais une brique, t'as plus que 10 sacs, et tu te retrouves, gégène, comme un gland dans la gêne. Y'a pas d'erreur, coco, pour faire aller le bateau. Faut du coco, du bon, du beau. Y'a pas d'erreur, coco.
beau.
Cédric Gourmelon dans le Ferry Club sur Radio
Ferry
Libertaire.
Ferry Club sur Radio Libertaire.
Absolument, Marie. Question subalterne, mais vous nous avez donné un élément de réponse. Est-ce que vous sollicitez les musiques de Léo, les orchestrations de Léo, ou bien est-ce qu'il n'y a pas du tout d'orchestration et c'est uniquement le son de Michael Plugnan?
Toujours pareil, pour éviter toutes les comparaisons, pour ne pas se mesurer à Ferré, je souhaitais pas trop qu'il y ait sa musique, qu'on n'entende pas trop sa voix. Et je trouvais ça quand même un peu triste. Donc la fin du spectacle, c'est une chanson de Ferré, mais c'est pas un de ses textes. Là aussi, tout est en décalé. C'est un texte de Verlaine. Je vous vois encore. C'est une chanson très très belle qui conclut le spectacle. Sa voix est particulièrement douce, je trouve, sur cet enregistrement. C'est une chanson qui dure 2 minutes et c'est le seul moment où on entend la voix de Ferré à la toute fin. Ça conclut le spectacle.
Vous diffusez la chanson en tant que telle?
On diffuse la chanson. Tout simplement, je ne fais plus rien à ce moment-là. J'écoute la chanson et noir. Voilà. Et c'est très beau. C'est comme le... comment dire, une résonance finale, et je voulais que ça soit lui qui conclue quand même, quoi.
D'accord.
Et puis cette chanson spécialement parce que le spectacle, l'air de rien aussi, essaye de témoigner de toute son œuvre, et donc c'était aussi d'aborder cette question de la mise en musique, quoi, des poètes. Je trouve que c'est une des choses les plus belles qu'il a fait durant sa carrière, quoi. C'est de permettre de vraiment faire découvrir Rimbaud, Verlaine, Baudelaire à des gens qui ne l'avaient jamais lu. Et je trouve que ce qu'il a fait là-dessus au niveau musical, c'est extraordinaire. Enfin, et donc là, en l'occurrence, c'est un texte de Verlaine qui est très très beau. Voilà. Okay, donc il vient conclure le spectacle.
Et puis ce côté démocratisation, j'aime pas ce terme, mais je l'utilise, voilà, tant pis, de la poésie par Léo, c'est quelque chose à laquelle vous pouvez être sensible. Parce
bien
que
sûr,
dans
ouais.
votre travail d'artiste, il y a aussi cette dimension dont je parlais très rapidement au début, de partager un peu votre passion du théâtre et de former éventuellement les gens.
Oui, donc je dirige le théâtre à la Comédie Béthune. C'est un centre dramatique national et la mission, c'est vraiment ça. C'est une vieille histoire, hein, c'est le début de la décentralisation, donc Malraux, tout ça. Et l'objectif, il est toujours le même, c'est de venir apporter la création artistique là où c'est plus compliqué pour la recevoir qu'ailleurs. Quoi. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que même des gens de bonne volonté qui voudraient aller voir un spectacle, il y a des endroits du Pas-de-Calais où c'est compliqué, quoi, parce que c'est un peu loin.
Puis il y a beaucoup de gens dans le Pas-de-Calais, ce que vous me disiez, il y a quand même une population assez importante.
Oui, quand on regarde la carte de la densité de la population en France, il y a l'Île-de-France et puis il y a le Nord-Pas-de-Calais finalement, il y a énormément d'habitants. C'est évidemment beaucoup de précarité, de chômage. Là, spécifiquement, là où on est à Béthune, ça cumule, quoi. C'est-à-dire que c'est... il y a pas mal d'illettrisme, même si on n'en parle pas. Il y a beaucoup de chômage, évidemment. Beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Mais aussi beaucoup de maladies. C'est-à-dire que c'est l'agglomération de Béthune, la communauté d'agglomération de Béthune, c'est celle où il y a le plus de cancers en France.
Ah ouais.
Tout confondu. C'est-à-dire que, et sans doute que tout ça est lié aussi. Hein.
Bah, oui.
C'est-à-dire que c'est l'industrie, la pollution, mais aussi la malbouffe, aussi toute une série de facteurs, quoi, qui cumulent. Et du coup, et à la fois, c'est des gens super bienveillants, accueillants. C'est plutôt milieu populaire, quoi, évidemment. Mmh. On est à 18 km de Lens, donc il y a le foot aussi qui est très présent. Et moi, j'ai choisi de venir de postuler pour diriger le CDN de Béthune. À la fois parce que c'est un bel outil, c'est-à-dire qu'il y a une belle équipe et tout ça à Béthune. C'est une petite ville, mais c'est un gros théâtre. Mais parce que c'était un territoire qui m'intéressait. Mmh. Parce que j'avais envie de de faire du théâtre là-bas, en fait. Parce que les gens sont aussi très, ils n'ont pas d'a priori. Alors, il ne faut pas se planter. Quand ils viennent, quand ils franchissent les portes du théâtre pour la première fois, il faut que ça assure. C'est-à-dire que, il faut que la proposition soit de qualité, parce que peut-être ils ne reviendront pas une deuxième fois. Mais pour venir une première fois, il n'y a jamais d'a priori. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à venir. Et ça se fait dans un mode assez direct, c'est-à-dire que séance parlant, c'est presque du porte-à-porte, quoi. Et ouais. Voilà. Et donc il y a plein d'histoires là depuis un an et demi que je dirige le théâtre comme ça, où des gens sont venus pour la première fois. Et puis voilà. Donc c'est beaucoup basé sur la convivialité aussi. Il y a un bar, on boit des coups.
Ça compte. C'est important ça. Aussi, bien sûr. c'est important.
Et du coup, dans l'émission, il y a cette idée de diffuser la création artistique le plus possible sur tout le territoire, quoi. Voilà. Et donc, ça existait déjà à Béthune et on continue à le développer. C'est le principe de l'itinérance, où il y a six spectacles. Pour l'instant, on en est à six. Et même des créations spécifiques qui se font pour ça, dans le cadre de l'itinérance. Donc, c'est un travail avec la centaine de villages et de petites villes qui entourent la Béthune. C'est une énorme communauté d'agglomération. Et donc, on travaille avec... alors, c'est des endroits où il n'y a rien. Parfois, il n'y a pas de salle des fêtes. Donc, ça se fait soit dehors, soit dans des petits équipements ou dans un gymnase. Mais ça, c'est une quarantaine de représentations quand même par saison, mais en dehors de la Comédie de Béthune.
Pour le coup, peut-être que c'est moins, du coup, plus simple peut-être pour les gens d'aller vers dans cette dimension-là. Il y a pas de salle, il y a peut-être un peu moins de cérémonial, peut-être que ça.
Exactement. Ouais. Oui, ça compte beaucoup. Ouais, ça c'est un des obstacles. Oui. Le côté. Même si il y a des endroits en France où ça existe vraiment, c'est-à-dire que c'est le côté, c'est un peu un truc de bourgeois, quoi, finalement, d'aller au théâtre. Il y a toujours quelque chose d'intimidant, quoi, d'aller dans un grand hall, les gens sont bien habillés, etc. Il y a ce côté-là. Alors, il n'y a pas trop ça. J'allais dire, j'exagère, mais il n'y a pas beaucoup de bourgeois dans le Pas-de-Calais, donc il n'y a pas trop ça, finalement. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un truc où il n'y a pas d'a priori, quoi. Il y a quelque chose d'assez... Mais quand même, oui, ça, il y a quelque chose du cérémonial ou qui peut intimider. Et à la fois, ce que j'ai remarqué, il ne faut pas l'abandonner complètement non plus, parce que c'est aussi quelque chose pour le public là d'excitant et de... c'est un peu la fête quand même, c'est un peu un événement aussi d'aller au théâtre. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est comme quand j'ai pas mal travaillé en Russie.
Ouais.
Quand on parle de la Russie, c'est un peu terrible, mais...
En ce moment, c'est un peu compliqué.
Alors, on ne parle pas de Poutine, on ne parle pas de tout ça, mais en tout cas, le théâtre russe, c'est le berceau du théâtre occidental. C'est-à-dire que les théâtres en Russie, c'est toujours très impressionnant. C'est vraiment le temple du théâtre, quoi. Ils aiment... Et du coup, quand j'ai travaillé à plusieurs reprises dans des théâtres en Russie, et il y avait un truc de très beau là-dessus, c'est-à-dire que en Sibérie notamment. Donc là, pareil, c'est pas un truc de bourgeois si on veut le théâtre. C'est vraiment une sortie, une fête, un événement. Donc les gens mettent leurs beaux habits pour aller au théâtre et ils aiment que ça dure longtemps. Plus ça dure longtemps, plus on en a pour son argent finalement, parce qu'on achète un ticket. Et si ça dure 8 heures, tant mieux, parce que il y a un truc comme ça. Et puis tant mieux parce qu'il y a plus d'entracte, donc on peut plus boire des coups, on peut plus sociabiliser aussi. Et du coup, les auteurs russes, parfois, c'est très très long les pièces, quoi. Mais parce que c'est un plaisir. Quoi. Et je dirais pas que c'est comme ça le Pas-de-Calais, faut pas déconner, mais il y a en tout cas quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, c'est à la fois il y a un truc du rituel qu'il faut garder un petit peu, ça reste une fête.
Bien sûr.
Et à la fois il faut que ça soit vraiment ouvert à tous, envoyer les signaux comme quoi tout le monde peut venir et qu'on va boire des coups.
Ouais. Ça doit être un dosage effectivement très délicat,
c'est ça,
quand même.
Ouais.
Ouais, clairement. Un petit mot pour peut-être finir sur World Tour Sword, entre guillemets. Vous ne faites que dire les textes ou bien est-ce que vous les chantez parfois?
Alors, il y a... Je chante, mais je... je chante La Mémoire et la Mer.
Ah,
ouais.
D'accord.
J'essaye de chanter, en tout cas. Je chantonne. C'est du parler-chanter, si on veut, quoi. Mais...
C'est difficile de ne pas la fredonner.
Oui, c'est difficile de ne pas la fredonner. Et puis, non, c'est un vrai travail que je fais. Hein. C'est une fausse modestie ou je ne sais pas quoi. C'est difficile d'assumer de chanter du Ferré, voilà, tout simplement.
D'accord.
Mais je la chante.
D'accord. Je vais peut-être nommer, si vous voulez bien, les gens qui effectivement vous entourent. Il y a Michael Plugnan qui a le rôle de collaborateur artistique et de composition des sons. Et donc vous nous dites qu'il amène parfois aussi des musiques un petit peu plus punchy, enfin qui n'ont rien à voir.
Oui, il est plus rock, lui. Il est plus et puis musique électronique. Donc il vient amener et puis c'est pas sa passion, Léo Ferré de base. C'est vraiment le travail que je propose qui va l'intéresser, ça amène du décalage. Moi, c'est important aussi pour moi, toujours pareil, pour éviter toute forme de comparaison, c'est de vraiment prendre l'œuvre de Ferré et puis essayer de la faire nôtre, quoi, vraiment, avec des sons d'aujourd'hui, ouais. Avec... voilà.
Bien sûr. Et puis de la rendre aussi appropriable, entre guillemets, à celles et ceux qui viennent vous voir.
Exactement, ouais, oui, ouais, c'est ça. Ah, ouais.
Donc cette dimension moderne est aussi là pour stimuler ça.
Oui, donner envie aux gens, en fait, de s'intéresser aux poètes. Et d'aller, s'ils arrivent à parce qu'on vend les textes de Ferré à la sortie,
ça marche,
y compris, alors c'est ça qui est dingue, y compris les gens qui aiment beaucoup Ferré ou qui sont un peu pas spécialistes mais qui sont un peu et qui découvrent des textes là, parce que justement cette période Toscane, c'est pas la plus, c'est souvent la période Barclay, quoi, les chansons les plus connues, tout ça, et là ils sont surpris. C'était ça, moi, l'enjeu. C'est qu'il y a une dimension de l'auteur qui était méconnue par eux, voilà, de Ferré. Et ils se rendent compte que c'est un immense poète. Et je pense qu'il, moi, il commence à tutoyer les Rimbaud, Verlaine, tout ça, sur la fin de son œuvre. Mmh. Et là, quand on me dit ça, moi, je suis super heureux. C'est l'objectif. C'est pour ça que je fais ça.
Vous vendez les textes sous quelle forme, alors, à la fin du spectacle?
Les trucs déjà édités. Il y a le testament phonographe.
Ah,
il y a
les textes... Les Chants de la Fureur, le livre, peut-être?
Oui, il y a ça. Tous les bouquins sur Ferré.
Voilà,
on a une petite librairie... Enfin, au théâtre, on vend les bouquins un peu des spectacles qui jouent, quoi. Donc on n'a pas beaucoup de références, quoi, mais on essaie de proposer à chaque fois des livres en lien avec le spectacle qui est représenté.
Mais ce sont des livres et pas des disques?
Je crois que là, on avait des disques aussi.
Aussi, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Mais c'est important, cette dimension-là, parce que Léo est dans l'imaginaire des gens, Léo est un chanteur, mais il est peut-être autre chose, et c'est aussi le but de votre spectacle.
Exactement. Il est aussi auteur, un grand poète, et aussi un grand compositeur et musicien. Ça, c'est une autre dimension. Alors, ce n'est pas celle qui est le plus présente dans le spectacle, vous l'avez compris.
Oui.
Mais c'est vrai que Ferré, il y a aussi cet aspect-là qui est important.
Avec vous également Benjamin Guyot, qui s'occupe de la collaboration artistique. La scénographie est assurée par Mathieu Laurie-Dupuis.
Oui.
Et les lumières de Marie-Christine Soma, qui me semble joue un rôle important dans la scénographie, si on peut dire.
La lumière, alors Marie-Christine Soma, c'est une grande éclairagiste. On travaille ensemble depuis quelques années. Elle travaille pour Thomas Ostermayer, pour les grands metteurs en scène européens et tout ça. Et donc là, c'est devenu vraiment une collaboratrice importante, oui. Elle est elle-même metteur en scène. Et là, c'est... chaque tableau est sculpté un peu par la lumière, quoi. Ouais. Et du coup, il y a quelques éléments simples. Il y a un rideau à paillettes, il y a un piano, évidemment. Il y a cette toile sur laquelle je peins. Quelques petits éléments. Il y a un drapeau noir, quand même, qui vient à un moment. Ouais. Quelques éléments comme ça. Mais tout est dans la sensibilité et la simplicité de la lumière. C'est très beau, le travail qu'elle a fait.
L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles. L'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins. La mer a perlé rousse à tes mâmes vermeilles. Et l'homme saigné noir à ton flanc. Souverain, Marie-Léon.
Je vais donner les dates auxquelles vous allez jouer le spectacle Words, 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 Cédric Gourmelon. Vous serez le 31 mars à Marles-les-Mines, le samedi 1er avril à La Couture, le mardi 4 avril à Saint-Venant, le mercredi 5 avril à Lillers, je prononce bien
Lillers.
le 6 avril à Nord-en-Fonte, et enfin le 7 avril à l'abbaye de Belleval. Vous allez mettre Léo dans une abbaye.
Dans une abbaye. Je crois que c'était, elle a été désacralisée. Hein, mais...
Bon, bah, tant mieux. Enfin, tant mieux, c'est subjectif, hein, excusez-moi. Mais c'est vrai que ça va être une rencontre intéressante, originale en tout cas.
Ferré dans une église. Mais je crois qu'il a enregistré, il y a un album qui s'appelle Les Vieux Copains. Mmh. Et il y a une chanson a cappella, il me semble que c'est dans une église. Et c'est très très beau du coup, parce qu'il y a sa voix là, lyrique, qui vibre.
J'ai une question qui va vous faire hurler, donc je la pose en chuchotant. Mais est-ce qu'une captation vidéo de ce spectacle va être faite? Qu'est-ce qu'elle sera un jour?
Elle existe. Elle existe. Elle est déjà faite. En fait, on a filmé la répétition générale. Et puis, je l'assume. Enfin, je veux dire, je pense avec. Le spectacle n'était pas encore rodé, quoi. Mais oui, il y a une captation. Elle n'est pas publique pour l'instant. Voilà. Elle n'est pas publique pour l'instant.
Ce qui est normal, hein, parce que je veux dire, le but, c'est quand même
de les gens voir le spectacle.
Voilà,
quoi.
Bien sûr. C'est pour ça que je vous la posais comme ça, du bout des lèvres, cette question.
Il y en a une. Alors peut-être qu'on la rendra publique à un moment où il faudra faire un travail de montage dessus. Mais on a fait une captation.
Et est-ce que le spectacle va vivre ailleurs un peu plus tard?
Oui, on va continuer. Alors moi, en tant que metteur en scène par ailleurs et directeur, c'est compliqué de pouvoir faire des longues tournées ou de pouvoir... Mais oui, on va continuer à le proposer de temps en temps. J'ai envie de le jouer durant les prochaines années. Donc il va y avoir des phases. Je pense qu'on va quand même... Il y a une proposition pour le faire à Avignon. On va y réfléchir.
Quand vous jouez là en 2023, est-ce que vous, il y a longtemps que vous l'avez joué? Ou vous l'avez joué il n'y a pas très longtemps ou...
Donc je l'ai repris en salle, donc à la Comédie de Béthune en décembre-janvier. Je l'ai joué une dizaine de fois et je ne l'avais pas fait depuis 12 ans.
Et est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une raison pour laquelle vous avez eu envie de le reprendre à ce moment-là, en 2023?
Je vous ai parlé de Baptiste Amann, hein, donc oui. L'auteur du texte désert. C'est pas mal ça. Ça c'est le moyen de le refaire plutôt. La vraie raison de l'envie de le refaire, c'est je crois que c'est à chaque fois c'est la même chose, c'est quand je commence à parler de Ferré à des jeunes et qui connaissent pas. C'est ça qui me remotive à chaque fois, qui me donne envie d'y retourner. Et puis comment dire, c'est le plaisir de le recôtoyer. Enfin, quand je joue ce spectacle, je me sens bien. Ferré me manque, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Même s'il y a beaucoup, ça aussi je tiens à le dire parce que il y a des choses qui m'énervent, hein, qui m'agacent chez Ferré. Il exagère. Il y a des choses où je suis pas d'accord. Il y a des trucs où c'est too much. C'est pas non plus.
C'est pas d'idolâtrie.
Non, c'est pas d'idolâtrie. Il y a plein de choses. Mais il y a une forme de malice, je dirais, ou d'un rapport à l'enfance qui l'emporte surtout pour moi. Une forme de naïveté presque, alors sans doute entretenue, parce qu'il ne devait pas l'être naïf, mais qui crée un lien défectible pour moi. C'est-à-dire que malgré ses travers ou malgré ses excès ou malgré tout ça, il y a quelque chose, une affection profonde pour et puis une admiration pour l'artiste, moi qui durera toute ma vie, je le sais, voilà.
Et donc il est possible, voire probable, que le spectacle Words, 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 vous le sollicitiez, vous le jouiez à nouveau.
Oui, je crois que c'est pas terminé. Oui.
Non, tant mieux. Question parisienne, est-ce qu'un jour il sera joué à Paris?
Alors, je l'ai jamais joué à Paris. Oui, pourquoi pas? Enfin, pour l'instant, on n'a pas travaillé parce que, encore une fois, ça fait peur. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'absenter plus.
D'accord.
Voilà. C'est-à-dire que mes mises en scène, elles peuvent tourner. Alors, je viens les voir de temps en temps. Mais là, moi, seul en scène, ça me coupe complètement de l'activité du théâtre. Donc, je ne pourrais pas le faire sur des longues. Mais pourquoi pas? Au moins quelques dates, ouais.
Je rappelle que vous dirigez le Centre Dramatique National de Béthune et donc forcément qu'il y a des responsabilités auxquelles vous ne pouvez pas échapper, quoi, et que ça doit ne pas être simple à ce niveau-là. Cédric Grommelon, merci beaucoup d'être venu jusqu'au studio de Radio Libertaire. On va terminer avec deux questions. La première, c'est de vous proposer de choisir la chanson avec laquelle nous allons terminer l'émission. Alors là, c'est vrai que je vous prends vraiment comme ça au déboté, mais voilà, c'est une proposition. Si vous avez envie que nous finissions avec une chanson en particulier.
Moi, je dirais La mémoire et la mer. J'en parle comme de ma préférée. Puis vous aviez... vous, ça ne doit pas être loin de ça aussi, mais...
Ouais, parmi celles que vous avez citées, il y en a d'autres qui sont largement mes préférées, mais bon, la mémoire est importante, quand même, bien sûr. Et puis la question que je vais vous poser, compte-t-il à rentrer chaque année les artistes ? Est-ce que vous avez...
Je vous le demande. En tout cas, c'est un moment de colère dans le spectacle. Et compte-t-il à rentrer chaque année les artistes à faire leur guignol ou à... Moi, je le prends comme ça, en tout cas. À être sur leur petit nombril enfin, peut-être parce que moi-même, je le suis, artiste. Ça me renvoie à ça, moi. Alors qu'il y a tellement de malheurs dans le monde, alors qu'il y a tellement de misère, qu'est-ce qu'ils ont à revenir faire leur cinéma à chaque rentrée, les artistes, voilà. Mais c'est une tendance, c'est-à-dire que c'est une... comment dire, évidemment qu'ils sont là, évidemment qu'on en a besoin, ils sont essentiels, hein. On parlait des artistes non essentiels, là, Macron, là, il y a 2-3 ans, bien sûr qu'ils sont essentiels, mais il y a quelque chose de la colère qui est essentielle aussi, quoi, je dirais, voilà. Être artiste et entretenir sa colère, presque, je dirais, voilà. Il faut qu'il y ait les deux. Dès qu'on est artiste et que la colère a disparu complètement, ça devient chiant, je trouve, moi. Mais ça veut pas dire être militant politique, hein, pas du tout. Mais c'est quelque chose ça peut jouer à plein d'autres endroits, mais s'il n'y a pas un peu de colère, s'il n'y a rien à dire, en fait, c'est un peu compliqué, quoi. Vaut mieux fermer sa gueule, je dirais ça. Voilà, ça me fait penser à ça, moi.
D'accord. Merci Cédric Grommelon.
Ben merci à vous.
Et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un cygne. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament. Des années-lumière et j'en laisse, je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consume, ô l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient fille verte des fjords, revient violon des violonades, dans le port fanfare les corps, pour le retour des camarades.
parfum rare des salants, dans le poivre-feu des chersures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sunlights cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, dieu des granites. Ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale, d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me... Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle,
c'est la fin du Féricom Club. Bye bye.